Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la parentèle enchantée. Je suis Cynthia et je vous retrouve tous les premiers mercredis du mois à 11h pour une émission qui vous parle de parentalité sans vous donner l'impression d'être de mauvais parents. Avec moi en studio, Rémi, le papa.
Salut, c'est nous les parents de Lou et Zoé, 4 ans et 1 an, puisque Zoé a fêté son anniversaire le mois dernier.
On rappelle qu'il est bien évident qu'il y a mille façons d'être parent. N'oubliez jamais, on est le meilleur parent possible pour ses enfants et souvent les plus indignes pour les autres.
Ce mois-ci, on va vous parler autonomie et développement de nos enfants. Ça fait grave sérieux quand on le dit comme ça, mais vous allez voir, ça va bien se passer.
Pour ma part, je tenterai de comprendre ce qu'il se passe dans la tête de Zoé quand elle joue notamment.
Et toujours au rendez-vous depuis l'an dernier, Mamilo nous proposera une chouette histoire. Mais d'abord, place aux brèves. Dispositif, première page. Tel est le nom de l'opération du département de l'Ain pour donner de l'importance à la lecture chez le jeune enfant.
Ce dispositif offre ainsi un livre aux enfants nés l'année qui précède.
Lou avait eu droit à un beau livre, très stéréotypé, où c'est la maman qui promène son enfant dans la ville et où ce sont les hommes qui y travaillent.
Pour les enfants nés en 2021, comme Zoé, c'est le livre Toc 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 d'Isabelle Aimée et Bruna Barros qui est à retirer dans les médiathèques.
Tout à fait, Cynthia. Et d'ailleurs, la semaine dernière, c'était la semaine de la petite enfance.
Au programme notamment, le spectacle « Elle et moi » de la compagnie Rêve de lune d'Anaïs Vivès. Un bouquet de sensations qui propose à l'enfant de découvrir l'enfant qu'il deviendra.
Les enfants des crèches du Pelou et de la Ressouze ont ainsi pu découvrir le spectacle en version courte.
Vous l'avez certainement raté, mais il reste une possibilité de le voir car il sera au théâtre de Bourg ce samedi. Vite, vite, un coup de fil.
Il ne reste pas forcément beaucoup de place, donc ouais, l'appel est peut-être mieux que la billetterie sur Internet. Tiens Cynthia, et si on en finissait avec l'expression « faire une fausse couche » ? C'est la tribune du collectif « Fausse couche, vrai vécu » qui le demande.
Ce collectif, qui a signé une tribune le 27 mars dans le journal Le Monde, demande en effet à ce que l'on parle d'arrêt naturel de grossesse, tant le terme de « fausse couche » induit une responsabilité qui culpabilise et invisibilise.
En effet, au cours de sa vie, c'est une femme sur quatre qui traversera l'épreuve de cet arrêt de grossesse qui est tout, sauf anodin.
La médicalisation d'une fausse couche se fait d'ailleurs dans une maternité, lieu où la femme se sent souvent comme une intruse au milieu des futures mamans qui auront une vraie couche.
Couche, ouais, c'est le terme. Tiens Cynthia, il paraît que dimanche, on vote. Alors Cynthia, en tant que parent, t'as entendu parler de toutes les propositions pour les familles et les parents. Il y en a pas un paquet, on en parle beaucoup. Hein.
C'est moi ou c'est plutôt le néant de ce côté-là?
Joker, hein, on va dire qu'on a plutôt une jungle de propositions sans grande logique. Si à gauche, on retrouve des propositions qui visent à libérer du temps pour éduquer et voir grandir ses enfants, à droite, on retrouve des propositions folkloriques comme attribuer des allocations seulement si les parents sont français ou filer 10 000 euros si tu fais des enfants et que tu habites en zone rurale.
Super. Il y a aussi une proposition intéressante qui, je l'espère, ne nous concernera pas. C'est le versement d'une indemnité supplémentaire pour les parents qui ne trouvent pas de mode de garde.
Proposition qu'on retrouve d'ailleurs chez Mélenchon et chez Macron. Tiens, c'est pas comme s'il avait tout pouvoir, tiens. À propos de pouvoir, on va retrouver tout de suite l'histoire de Mamilo.
Salut les jeunes.
L'ours amoureux du ciel. Ouchi, l'ours blanc et noir, était amoureux du ciel. Aussi, quand arriva le moment de trouver une grotte pour passer d'hiver, il n'hésita pas. Il élut domicile dans une caverne dont le plafond était percé d'un large trou. Même allongé, il pouvait continuer de voir le ciel. Le premier jour, Ouchi ne dormit pas et garda les yeux fixés sur la voûte céleste. Le deuxième jour, il donna un nom aux nuages et aux étoiles. Mais le troisième jour, l'ours eut sommeil. Il était temps pour lui de dormir pendant tout l'hiver. Ouchi s'installa confortablement dans sa grotte et attendit le soleil. En vain, le trou dans le plafond apportait trop de lumière. Même la nuit, la lune et les étoiles éclairaient sa caverne. Très fatigué, Ushi partit à la recherche d'une nouvelle grotte. « C'est occupé !» lui répondit-on. « Il n'y a plus de place !» Toutes les grottes alentour étaient déjà prises et personne n'avait l'intention de se serrer pour accueillir un nouvel occupant. C'est alors que Ushi buta sur un drôle d'objet fait de deux disques noirs reliés par un fil de fer. « Qu'est-ce que c'est ?» se demanda-t-il. Après avoir regardé l'objet dans tous les sens, il le posa sur son ventre, sur sa tête, sur ses pieds et finalement sur son nez. « Oh, fabuleux !» hurla-t-il alors, tout excité. Il ne voyait presque plus rien. Voilà qui allait lui permettre de dormir, malgré la lumière. Vite, l'ours blanc et noir retourna à sa caverne. Il s'allongea, mit l'étrange objet sur son nez et s'endormit aussitôt. Lorsqu'il se réveilla, quelques mois plus tard, Ushi avait admirablement bien dormi. Mais quand il retira les lunettes de soleil, car c'en était, elles avaient déteint sur sa fourrure blanche. Il garda ses marques noires autour des yeux et, plus tard, ses enfants eurent les mêmes yeux. Ainsi apparurent les premiers pandas grâce à un ours amoureux du ciel et à une paire de lunettes.
S'il y a bien une chose que tout parent attend de son enfant, c'est bien l'autonomie, Cynthia.
Oh oui.
Et cette autonomie, on peut la vouloir, la désirer à tout âge de la vie, et elle ne s'obtient pas ainsi. Imagine quand même l'autonomie totale des femmes d'un point de vue sociétal aura attendu 2000 ans de civilisation judéo-chrétienne pour émerger. Alors imagine ce que ça représente pour un enfant. Et ça aussi, c'est le fruit d'un combat, de contradictions, de petites victoires et de petites défaites. Finit-on d'ailleurs vraiment par l'être autonome. Car si les petits hommes sont d'abord confiés à des assistantes maternelles car ils ont besoin d'être assistés, les grands hommes, les anciens, sont ensuite confiés à des EHPAD, des établissements hospitaliers pour personnes âgées dépendantes. Alors Cynthia, qui sommes-nous vraiment pour exiger que nos enfants soient autonomes ? Autonomes, peut-être, dans des situations dont nous projetons qu'elles pourront être réalisées seules un jour. À nous, notre grande attente du moment, c'est l'autonomie dans le déplacement dans la pièce. Vaste programme. Alors oui, on s'imagine que notre zozo qui tend les bras pour un jouet pourra dans quelques mois aller chercher ce jouet toute seule, en se déplaçant. Mais en attendant, il y a d'autres victoires à acquérir pour l'autonomie. Récemment, c'est une bataille qu'on n'avait pas prévue qui a terrassé la dépendance, pensez. Le matin, Zoé a de temps en temps un lait d'amande, de noisettes, de soja ou que sais-je.
T'es au courant que ça fait clairement bobo vegan,
ouais,
là.
Alors précision, hein, on n'a rien contre le lait de vache. Hein. On se dit juste que Zoé en a déjà sous plusieurs formes dans la journée et en quantité suffisante. Je pourrais vous parler du fromage un autre jour, du petit-déj, enfin voilà, elle en découvre du lait. Donc Zoé a de temps en temps du lait à boire dans un verre à bec. Et c'était assez épuisant de toujours lui tenir une anse car elle n'utilisait pas ses mains pour le tenir droit. Et puis paf, un jour, elle a chopé les anses avec les deux mains et elle s'est mise à boire toute seule. On ne s'y attendait pas vraiment, hein. Et à midi, voilà qu'elle chope son verre à eau et qu'elle boit comme une grande. Son verre à eau. C'est un truc spécial justement, vas-y vers l'autonomie, avec une membrane sur les bords qui permet de pencher le verre sans le renverser et qui ne craint rien quand il tombe par terre. Mais justement, pour aller vers l'autonomie, on se rend compte qu'il y a plein de moyens. Des moyens tantôt éducatifs, on va dire, et des moyens plus matériels. Ce verre à eau, il est clairement conçu pour que l'enfant puisse aller vers l'autonomie en tenant un verre d'eau comme si c'était un verre de grand. Et on est plutôt fiers de cette réussite, parce que la grande, elle a été très vite justement vers l'autonomie pour boire grâce à ce moyen matériel. Ce n'est pas notre talent de pédagogue, celui-là il est raté, on le sait bien Cynthia, mais bien le brevet déposé par un illustre inconnu dans la rubrique Poids et Culture, qui a fait grandir notre loup et qui fait aussi grandir notre Zoé. Pour boire un coup. Niveau moins matériel, il y en a évidemment des choses à dire. Mais ce sont davantage des petites choses, anodine qui apporte de l'autonomie à nos enfants. Quand on dit apporter de l'autonomie, il s'agit en fait d'apprendre. Apprendre à s'endormir seul, facile. Apprendre à ne pas pleurer quand l'un des deux parents s'en va, pas facile. Apprendre à ne pas avoir besoin des parents pour descendre de sa chambre. Ça, on en était fiers, Cynthia.
Ouais.
J'ai déjà dû parler de Vygotsky, psychopédagogue, qui a travaillé justement sur l'apprentissage et l'autonomie. Eh bien, Vygotsky, il dit un truc assez facile à comprendre, qui est que l'enfant apprend de façon quasi-sociale. En gros, le fait de devenir autonome résulte d'un mouvement qui va des interactions avec les adultes et les autres pour aller vers l'intériorisation de procédés appris au cours de ces interactions sociales justement avec les adultes et les autres. Dans les autres, on entend les copains, les frères et sœurs, les parents sur lesquels l'enfant va s'appuyer. On peut imaginer par exemple qu'on construit un mur. Mais pour l'instant, le mur ne tient pas tout seul parce qu'on a mis des étés pour ne pas que ça s'effondre. Et bien progressivement, on construit le mur, on enlève les étés et on se rend compte que le mur, il tient tout seul. Voilà. Chez nous, chez nos enfants, l'autonomie, ce sont ces étés à enlever. Et Cynthia, je crois que ce qu'on construit, c'est une cathédrale dont on enlèvera les étés progressivement. Cathédrale qui, un jour, sera grande.
Pourquoi les gens disent toujours « Plus tard quand tu seras grand » Moi qui grandis tous les jours, je suis là et j'attends. J'attends que le jour se lève de réaliser le rêve aujourd'hui et maintenant de n'être plus un enfant. Je patiente doucement que l'on veuille seulement m'accorder une seconde, un petit morceau de monde. Pourquoi les gens disent toujours plus tard quand tu seras grand? Toi qui grandis tous les jours, tu te dis c'est pour quand? Comment mesurer l'écart entre toi et les grands? Car sur les doigts d'une main seulement, tu peux compter les printemps. On te dit que rien ne dure, que le temps file à toute allure. Mais tu vois le temps que ça prend, une heure assise sur un banc. Pourquoi les gens disent toujours plus tard quand tu seras grand? Moi qui grandis tous les jours, je suis là et pourtant. Si je voyageais dans le temps, j'irais voir mes grands-parents quand ils mesuraient trois pommes, qu'ils n'étaient que petits d'hommes. J'aimerais tant pouvoir me faire une enfance buissonnière. Est-ce que demain, c'est dimanche? J'attends les mains sur les hanches. Pourquoi les gens disent toujours plus tard quand tu seras grand? Je ne grandis plus tous les jours depuis quelque temps. Quand je croise un copain de classe, je me dis c'est un vieux qui passe. Et parfois je m'extasie sur la grandeur des petits. On laisse filer les calendes, il arrive qu'on se demande est-ce qu'un jour j'ai été grand quand on a les cheveux blancs. D'étranges affaires, d'un bout à l'autre de l'existence. Si le temps passé reste éphémère, le temps qui s'écoule est immense. Pourquoi les gens disent toujours plus tard quand on sera grand? On se répète ça tous les jours depuis la nuit des temps.
Vos enfants ne sont pas vos enfants. Ils sont les fils et les filles de l'appel à la vie à elle-même. Ils viennent à travers vous, mais non de vous. Et bien qu'ils soient avec vous, ils ne vous appartiennent pas. Tels sont les mots de Khalil Gibran dans son livre « Le prophète ». J'aurais pu vous lire ce passage en entier, mais déjà ces quelques mots traduisent bien ma pensée. Car si on tend vers l'autonomie avec nos filles, c'est bien justement pour cela, pour qu'elles soient libres d'être elles-mêmes. Pas pour qu'elles nous ressemblent, non, sûrement pas, mais pour qu'elles aient les outils nécessaires pour grandir et se développer pleinement. Et puisque nos enfants ne nous appartiennent pas, c'est justement là le rôle du parent. Que l'enfant puisse se sentir suffisamment outillé pour s'autoriser un jour à sortir du giron familial en faisant ses propres choix et expériences. On projette tous des choses sur nos petits. Un exemple tout bête, j'ai fait de la musique étant petite et je dois bien avouer qu'il ne me déplairait pas que mes filles en fassent aussi. Alors oui, certainement que cela fera partie des choses que je leur proposerai à un moment ou à un autre, pas parce que cela est... parce que cela a été important pour moi et que, ne le cachons pas, mon schéma intériorisé de ce qu'est une bonne éducation comprend l'apprentissage de la musique. Mais si je prends le temps de déconstruire un peu mes propres schémas, je ne peux que constater que je vis avec un conjoint qui n'a jamais vraiment appris la musique, n'est-ce pas Rémi ?
Non, moi la musique ça fait deux.
Et qui pourtant ne semble pas si mal s'emporter.
J'aime bien la musique, j'écoute la musique, je préfère l'écouter.
Alors, ai-je le droit d'imposer à mes filles d'en faire de la musique, coûte que coûte ? Je pense sincèrement que non. On est là pour guider nos enfants, en aucun cas pour les pousser de force sur tel ou tel chemin. Et il n'y a un pas énorme entre proposition et injonction. C'est aussi ça, développer l'autonomie de nos filles. C'est aussi leur permettre de choisir leurs appétences, leur laisser le temps de se découvrir et respecter leurs paroles. Or ça, ça se joue à tout âge. Dès la toute petite enfance, donner de l'importance à l'avis de l'enfant me semble essentiel. Donner une force à sa parole, le laisser nous dire qui il est plutôt que de vouloir tout imposer et contrôler. C'est déjà lui permettre d'être plus vite autonome en tant que personne. Bien sûr, cela ne peut pas fonctionner pour tout. Je ne suis pas en train de prôner l'enfant roi, loin de là. Mais prendre le temps d'écouter ce que votre enfant tente de vous dire, tout en y mettant des limites dues à son âge, me semble essentiel. L'autonomie ne se joue pas seulement dans les actes du quotidien, bien que cela soit important, s'habiller seul, aider aux tâches ménagères, savoir ranger ses affaires. Ok, tout cela c'est chouette, et on tend tous vers ça désespérément avec nos petits. Mais l'autonomie, la vraie, celle avec un grand A, il me semble qu'elle se cache ailleurs. L'autonomie, c'est avoir suffisamment de confiance en soi pour se dire qu'on est capable de réussir. C'est se sentir suffisamment assuré dans sa relation à ses proches pour se permettre de s'en détacher sans craindre de la perdre. L'autonomie, en définitive, c'est se permettre de vivre, aimer, rêver par soi-même, sans rester enfermé dans les attentes des autres. En tout cas, moi, en tant que maman, c'est de cette autonomie-là que je rêve pour mes filles. Je ne cherche pas à ce qu'elles fassent ou pensent comme moi. Je ne veux pas, à travers elles, rattraper des rêves d'enfance ou réparer des failles anciennes. Je veux qu'elles se sentent le droit d'être elles-mêmes. Alors oui, j'espère que, ce que je leur apporte aujourd'hui contribuera à ce qu'elles seront demain. Et pour revenir à l'image du mur prise par Rémi tout à l'heure, j'espère que les pierres que j'aurai pu apporter à leur mur leur serviront, qu'elles pourront s'appuyer dessus. Mais tout autant, si elles ont envie plus tard de le déconstruire, ce mur, bah, ça n'a pas vraiment d'importance. Car mes pierres, elles seront toujours là, quelque part. Ce sera juste la forme qu'elles auront prise qui sera différente. Certaines se retrouveront certainement enfouies sous d'autres, toutes nouvelles. Mais je caresse l'espoir que mes filles auront acquis l'autonomie nécessaire pour arriver à en faire un chemin, leur chemin.
Je trace des chemins qui n'attendent que toi. Toi l'enfant qui vient, je précède tes pas. Je murmure ton nom dans le souffle de ma voix. Je t'offrirai le monde, toi, que je ne connais pas. Je t'ouvre grand mon cœur, comme on ouvre ses mains. Je t'espère des bonheurs aussi grands que les miens. Demain, c'est toi. J'apprends les alphabets de chacun de tes gestes. Je te chante mes rêves d'espace et de Far West. Je veux pour toi l'amour, le rare et le précieux. La beauté du monde, à portée de tes yeux, les poings chauffés à blanc, je forge pour demain des bonheurs que je souhaite, si grands que les miens. Demain, c'est toi. Je te donne les clés qui ouvrent tous les coffres. Je pulvérise les murs des prisons que l'on t'offre. Je cours à l'infini pour ne pas te laisser. Tout ce que je ne t'ai pas dit, c'est parce que tu le sais. parce que tu le sais, à toi l'enfant qui vient, comme un petit matin. Je t'espère des bonheurs si grands que les miens. Demain c'est toi.
Allô, bébé?
Ici papa. Allez, faut y aller. Cécile, ou dépêche-toi. Allez, je commence avec ta sœur. T'as qu'à venir quand tu veux, mais à un moment, faudra se laver, hein. Ben oui, Zoé, hein, c'est l'heure du bain. L'heure terrible où la pièce va ressembler au pont du Titanic. Après le naufrage. Hein. D'ailleurs, Rose, quand elle a fini à l'eau, est-ce qu'elle a fait pipi dans l'Atlantique Nord, hein?
Certainement.
Certainement, ouais, bah je sais pas, Lou, mais en tout cas, pas dans le bain. Je sais, tu aimes bien ça. Ouais, ouais. L'eau, c'est ton truc, Zoé, j'ai l'impression, hein. T'aimes sentir l'eau qui coule sur tes cheveux et ton visage, hein. Alors que toi, Lou, c'est toujours pas ton truc, hein. Regarde, ta soeur, elle dit rien. Ça la fait même rire. Bon, ok, t'acceptes aussi d'être mouillée? Mais non, crie pas. D'ailleurs, arrête de crier dans le bain. Enfin, arrête de crier tout court. J'ai l'impression d'être enfermé dans la salle des machines avec le capitaine Haddock. Ah ben voilà, c'est malin. Voilà que Zoé s'y met aussi. Allez, je vais crier aussi. Ah non, non, non. Il paraît que ça fait du bien de se vider la tête en criant. On peut arrêter maintenant? Pourquoi? Parce que Zoé a décidé de pleurer enfin. Mais pourquoi? Ben, Lou, je crois que c'est vraiment chouette de partager le bain avec ta sœur. Mais là, en fait, tu viens de la pousser avec ton pied et elle a basculé sur le côté. Ouais, je sais, tu maîtrises pas tous tes gestes et tu fais beaucoup d'efforts pour te contrôler. Mais si j'avais pas été là, à la retenir par le bras, ta petite sœur, dans le bain, ça nous aurait plus moyen, en fait, qu'elle joue au petit Grégory. Donc oui, maintenant je la rince. Et regarde bien, toujours sans râler. Enfin, si, là elle pleure. Mais elle pleure parce qu'elle pleurait avant. Mais c'est pas à cause de l'eau et du savon, hein. Bon, allez, Lou, tu te laves aussi les cheveux? Si, si, comment ça, tu veux pas? Ah ouais, parce que c'est toi qui décides si tu gardes tes cheveux crades ou pas. Allez hop, je sèche ta sœur et après c'est ton tour. Et... vous savez, les filles? Ouais, c'est vraiment un chouette moment, le bain. Il y a fort longtemps, c'était un moment super cocooning, où chaque geste se faisait mesurément, en douceur, caressait votre crâne, vos épaules, vous apportait un moment de détente, et vous savouriez ce petit instant entre nous. Et vous savez quoi? Ben, je l'aime toujours, moi, ce petit moment sympa, qui n'est plus cocooning du tout, mais où il y a toujours de la vie. Allez, on sèche, vous allez avoir froid.
Et si Zoé pouvait parler, elle vous dirait sûrement. Moi, je suis un bébé. C'est super d'être un bébé. Tout le monde fait tout le temps attention à vous. Tout le monde semble vous aimer et vous parle avec une voix gentille quand vous êtes un bébé. On a des tas de privilèges en étant un bébé. Il suffit de crier un peu pour détourner l'attention des autres autour de vous. Et il faut bien dire que j'en profite un petit peu. Mais en même temps, parfois j'en ai marre d'être un bébé. Parce que quand on est un bébé, on a besoin d'être pour tout, tout le temps. Et moi, j'aimerais tellement faire des choses comme les grands. Enfin, comme les grands, non, pas comme papa et maman. Ils ont l'air d'avoir toujours plein de choses sérieuses à faire et ça, ça n'a pas l'air d'être rigolo. Par contre, faire des choses comme ma grande sœur, parfois ça, j'aimerais drôlement. Imaginez, ma sœur, elle peut aller où elle veut et quand elle veut. Moi, je peine déjà à attraper les jouets qui sont un peu trop loin de moi, alors je suis pas prête d'aller faire de cette balançoire qui me fait tant envie. Bien sûr, papa et maman, ils peuvent me poser dedans. Mais ça doit être franchement chouette de pouvoir y aller quand on veut, toute seule, juste parce qu'on l'a décidé. En attendant, je m'entraîne déjà à ramper. Et je vous prie de me croire que c'est pas franchement facile. Essayez donc, vous, avec vos grands corps d'adultes, et vous verrez que ça demande un certain effort. Allez, allongé sur le ventre, je tire de toutes mes forces sur mes avant-bras. Et là, ça y est, la limace est en marche. Bon. À force de m'entraîner, je vais de plus en plus vite et plus loin. Mais si seulement je pouvais marcher. Être debout, ça, je sais faire. Papa et maman me tiennent les mains et j'arrive même à avancer. Mais il me tarde tellement de réussir à le faire seul. Pouvoir aller attraper les choses interdites qui sont cachées un peu partout dans la maison. Piquer les jeux de ma sœur qu'elle met en hauteur exprès pour que je puisse pas lui prendre. Ah, allez, encore un peu de patience et ça viendra. Il ne faudrait pas non plus que je me mette à grandir trop vite. Être un bébé, c'est pas si mal pour le moment.
Et quand on est bébé, on peut écouter la parentèle enchantée toute la journée. Eh bien, vous, vous nous avez écoutés sur le 90FM. Et on se retrouve le mois prochain, même jour, même horaire.
Et n'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver aussi en podcast sur le site de Radio B ou sur notre page Facebook en tapant simplement « La parentèle enchantée ». À la prochaine.
Absolument, bisous.